Et l'idée qu'on a voulu développer dans les talents cachés de votre cerveau au travail, c'était de ne pas culpabiliser, déjà, parce que c'est très difficile de changer un comportement. C'est très difficile parce que on a une histoire, on a une éducation, on a des habitudes, qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui s'appelle l'habituation aussi. Donc on est habitué à faire les choses d'une certaine manière et rompre ce circuit d'habitude n'est pas évident.
Bonjour et bienvenue sur ASAP. Je m'appelle Alexandre Zermati, je suis auteur du livre Self Manager et je vous propose toutes les semaines une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Emmanuel Joseph Dailly, auteur du livre Les talents cachés de votre cerveau au travail. Emmanuel va nous donner quelques outils pour mieux utiliser nos émotions dans notre vie professionnelle. Je vous laisse tout de suite avec mon invité.
Je suis Emmanuel Joseph Dailly. D'un point de vue assez professionnel, j'ai différentes activités. Je suis directrice du Lab Recherche et Prospective au sein du groupe de conseil Julien Sterwen. Et puis, je suis également chargée d'enseignement dans plusieurs grandes écoles et j'ai des activités de publication, à la fois de livres et de chroniques pour la presse, et également une activité de coaching pour les particuliers. Je viens de coécrire un livre avec Bernard Ancelem qui s'appelle « Les talents cachés de votre cerveau au travail, les neurosciences pour cultiver votre intelligence émotionnelle, prendre les bonnes décisions et gérer votre énergie ». Et ce livre, c'est un peu un grand projet et une grande aventure parce que c'est l'idée de faire un pont entre le monde de la recherche, un monde souvent assez académique, et le monde de la transposition pratique. Donc l'idée, c'était de cibler un très grand public et de pouvoir être très pratico-pratique dans notre approche pour que la connaissance de notre cerveau et de notre activité cérébrale puisse servir à tout un chacun dans un monde d'entreprise et d'organisation.
Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations.
L'idée, et c'était une idée intéressante, c'était d'abord de connaître ce qui se passait dans notre cerveau, c'est-à-dire d'avoir une compréhension de nos mécanismes cérébraux pour ensuite pouvoir soit les accepter, soit y travailler, puisque le cerveau est un muscle, il bouge en permanence, il a la capacité d'évoluer en permanence et jusqu'à notre mort. Donc ça, c'était déjà une très bonne nouvelle, de savoir qu'il n'y avait pas un temps d'arrêt où on était cantonné à ne plus pouvoir se servir de notre cerveau et ne plus développer nos connexions synaptiques, mais que tout au long de notre vie, si on l'entraînait, on avait cette possibilité de progresser, de s'améliorer, de mieux vivre les choses aussi. On a choisi d'avoir une approche par grande fonction cérébrale et de s'appuyer sur les recherches les plus récentes sur ces sujets-là, à la fois sur nos émotions, parce qu'elles pilotent tout, nos émotions, donc elles arrivent en premier dans notre cerveau et elles influencent tout le reste. Donc on a choisi vraiment de les mettre en tête de pont du bateau parce que c'est l'émotion qui permet de prendre la décision, c'est l'émotion qui permet de gérer notre engagement par rapport aux choses, notre énergie, notre résistance au stress, notre rapport à l'autre, notre intelligence collective, qui sont les grands chapitres qu'on va développer par la suite. Et bien sûr, on cherchait vraiment à avoir une transposition pratique, donc à le relier à des événements pratico-pratiques de l'entreprise, tels que comment se prennent les décisions, comment est-ce qu'on s'appuie sur notre intuition ou bien au contraire une décision réfléchie cartésienne, par où passe le circuit de la motivation qui nous fait nous mettre en action dans les choses, comment est-ce qu'on gère au quotidien un stress qui est de plus en plus présent dans les organisations et puis comment est-ce qu'on collabore mieux aussi avec les autres à la fois dans notre relation à l'autre et puis pour créer ensemble. Comment se prennent les décisions et puis comment est-ce qu'on collabore mieux aussi avec les autres à la fois dans notre relation à l'autre et puis pour créer ensemble. Mon co-auteur Bernard avait publié déjà deux livres sur les neurosciences de l'émotion. C'est un sujet qui nous parlait beaucoup. D'une part parce que dans le monde de l'entreprise, l'émotion, on en parle peu, même si ça commence à arriver. Il y a de plus en plus de demandes du monde de l'entreprise de travailler sur l'intelligence émotionnelle, sur l'intelligence des émotions au sens large, pour pouvoir aussi muscler en quelque sorte les lignes managériales à cette sensibilité-là. Qui s'acquiert aussi, c'est quelque chose qu'on on a un potentiel peut-être dans l'inné à la naissance, mais c'est quelque chose qu'on peut largement développer tout au long de notre vie, cette intelligence émotionnelle qui requiert à la fois une intelligence de soi et une intelligence des autres. Et en entreprise, ça arrive de plus en plus rapidement maintenant, puisqu'on s'aperçoit que l'émotion va être un préalable à tout le reste. Donc à une bonne coopération, évidemment, mais aussi à de bonnes prises de décision. Et ça arrive notamment en force avec l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle est pour l'instant dénuée d'émotions, et ça lui fait parfois prendre des décisions plus pertinentes que les hommes. Je pense par exemple aux salles de marché, qui se sont dotées il y a quelque temps déjà de robots pour passer des ordres sur les floors, donc sur les salles dans lesquelles on passe les ordres de commande. Et du coup, ça met de côté toute la partie émotionnelle que les traders peuvent avoir dans leur prise de décision. C'est quelque chose d'assez intéressant d'y travailler pour le monde de demain, en tout cas. Le monde de demain autour de l'intelligence artificielle nous pousse à nous intéresser à ces mécanismes cérébraux. Moi, ça a été une partie de mon intérêt qui s'est porté sur ça, parce que l'intelligence artificielle fait déjà partie du monde d'aujourd'hui, elle fera encore plus partie du monde de demain, et on ne peut pas se dire qu'on va continuer de fonctionner ainsi alors que la machine va remplacer tout un tas de compétences jusque-là humaines. Et pour la bonne cause, parce que ça veut dire que l'humain, lui, va devoir développer d'autres choses que la machine, pour l'instant, ne peut pas développer. Et l'émotion en fait partie, mais l'engagement en fait partie également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capacité d'engagement est une capacité qui reste encore proprement humaine. Mettre en place au sujet de l'émotion pour y travailler, pour la muscler, pour se dire qu'on a des techniques. Et c'est vrai qu'il y a des techniques qui sont utiles à connaître pour développer sa culture émotionnelle. Il y a une culture, par exemple, de la réévaluation cognitive qui est assez intéressante. La réévaluation cognitive, c'est la manière dont on peut voir les choses différemment. Ça nous permet de gérer des situations de manière différente via un autre angle, aussi de travailler sur les transformations. Et dans la crise qu'on vit aujourd'hui, la réévaluation cognitive, c'est quelque chose d'assez intéressant, cette manière de voir les choses sous un autre prisme. On peut aussi essayer de travailler sur ce qu'on appelle les ruminations émotionnelles. Tu sais, cette pensée qui reste en nous et qu'on n'arrive pas à sortir de notre esprit au travers de différentes techniques, et ça peut être des techniques qui sont plus ou moins négatives. En technique négative, on va penser par exemple à la suppression expressive, c'est-à-dire se dire bon, bah, je chasse complètement cette pensée, elle disparaît et je fais comme si elle n'existait pas. Ça, c'est une technique qu'on emploie souvent et qu'on emploie souvent dans le monde de l'entreprise. On essaye de mettre à la porte nos émotions et on voit que ça marche peu, que parfois ça marche sur le court terme mais pas sur le long terme. Et dans les techniques qui marchent beaucoup plus, on a la recherche de bénéfices, par exemple. C'est-à-dire se dire que nous sommes à la base des mammifères, et donc on fonctionne avec un circuit qui est le circuit de la récompense, qui est particulièrement présent dans nos actions. Nous cherchons des récompenses dans ce que nous mettons en place, et donc la recherche de bénéfices est particulièrement intéressante dans la gestion de l'émotion. C'est de se dire quel bénéfice je tire de cette situation. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer? Qu'est-ce qui n'était pas prévu et que je vais gagner dans cette situation? Puis bien sûr, il y a tout ce qui est lien social, qui est très important dans la gestion de l'émotion. Ça peut être l'échange, le support, la discussion, et aussi l'expression d'un besoin en lien avec son émotion. C'est de se dire pourquoi cette émotion vient à moi? pourquoi elle arrive dans mon corps, qu'est-ce qu'elle exprime? Est-ce qu'elle exprime une peur? Est-ce qu'elle exprime un besoin non assouvi? Est-ce qu'elle exprime une inquiétude? Qu'est-ce que mon corps veut me dire quand il m'envoie cette émotion? Et on sait aujourd'hui qu'on ne peut rien faire contre une émotion qui arrive en nous, donc à notre cerveau. En revanche, on est responsable de ce qu'on en fait, donc de la manière dont on la transforme. Donc quand la peur arrive en nous, ça ne sert à rien d'essayer de la bloquer. En revanche, on peut essayer de la transformer. Et pour la transformer, il y a toutes ces techniques, à la fois de réévaluation cognitive, il y a aussi une technique de mise en perspective qui se rapproche de la technique de réévaluation cognitive, c'est de mettre en perspective et de se dire, bon, il y a pire, en fait. Il y a pire, finalement, dans cette situation, je ne suis pas si malchanceux que ça. Ça pourrait être encore pire, ça pourrait être différent. Et donc ça, c'est une technique de mise en perspective, de relativité, en quelque sorte, qui est très puissante aussi, qui sert beaucoup. Il y a aussi une technique de distraction qu'on appelle distraction active. C'est on se dit qu'on pense à quelque chose qu'on aime. Alors ça peut être en lien avec la sophrologie, par exemple. C'est-à-dire, voilà, quand les choses vont mal, je m'imagine un paysage en bord de mer, avec des goélands. Voilà, je me projette autre part. Et ça, c'est aussi très puissant et très intéressant pour le cerveau de mettre en place toutes ces techniques qui permettent d'aller ailleurs. Voilà, d'aller ailleurs dans une imagerie mentale positive. Se connaître soi-même, c'est fondamental et effectivement, c'est aussi le travail d'une vie. Le travail d'une vie parce qu'on évolue en permanence et connaître ses propres mécanismes a un effet très salvateur puisque ça permet aussi d'identifier ses propres biais. Savoir qu'on a des biais qui sont multiples. Et sur ces sujets-là du cerveau, on a aussi des archaïsmes, c'est-à-dire que le cerveau garde des réminiscences du temps où on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon, en quelque sorte, et où nos ancêtres devaient gérer des dangers plutôt que satisfaire leur acquis, si on le résume de manière brève. Et donc la sélection naturelle éliminait les hommes et les femmes les plus confiants, et du coup, aujourd'hui encore, notre cerveau a gardé un peu cette aptitude, mais du coup, a plutôt une propension à voir les choses les plus dangereuses, les plus menaçantes qui pourraient nous arriver. Donc, c'est une aptitude un peu constante de travailler sur une sérénité face à un environnement, de travailler sur soi, parce que parfois, notre cerveau joue contre nous. Donc c'est une aptitude un peu constante de travailler sur une sérénité face à un environnement, de travailler sur soi, parce que parfois notre cerveau joue contre nous. Alors la crise actuelle, c'est une période de vie très spécifique. Il y a 67 millions de Français confinés, on est près de 2 milliards sur la planète. Donc il y a un stress qui est vraiment hors du commun. Il y a des journées qui sont pour certains épuisantes et pour d'autres très oisives. Donc il y a une grande disparité finalement et un grand fossé qui est en train de se créer entre les quotidiens des uns et des autres. Et évidemment, notre cerveau est en mode adaptatif. Donc on est plus que jamais en neuroplasticité cérébrale. Quand on pense qu'il y a des parents isolés qui télétravaillent et qui en même temps gèrent leurs enfants avec différents emplois du temps, l'école à la maison, la cuisine, le ménage, le linge, les courses, les prévisions financières à venir. On est dans quelque chose qui rompt les habitudes. Le cerveau est un organe qui aime bien avoir des habitudes. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de s'économiser. Il pèse, il représente 25% de l'énergie corporelle de notre journée, alors qu'il pèse quelques grammes. Donc il cherche à s'économiser en permanence. Et pour s'économiser, il aime bien tout ce qui est mode automatique. Donc là, on n'est pas vraiment en mode automatique, puisque chaque jour, on s'adapte à la situation. On a maintenant un petit peu plus de visibilité sur les échéances, mais on est complètement dans le flou sur ce qui va se passer, comment ça va reprendre, à quel rythme et même à quelle date. Donc, on est dans ce flou cette opacité de projection qui est très difficile à vivre pour notre cerveau. Le cerveau, un des critères numéro un d'engagement pour les collaborateurs, c'est de pouvoir se projeter dans le futur, dans une organisation. Donc quand on sait que le cerveau aime se projeter dans le futur, c'est très difficile pour lui, cette période actuelle. Donc oui, il s'adapte comme il peut à l'incertitude, au questionnement, et surtout, il y a un véritable enjeu en ce moment, je pense, outre les enjeux un peu classiques, évidemment, de management à distance, d'animation de collectif, qu'on peut entendre sur les enjeux organisationnels, il y a un véritable enjeu, je pense, autour de la capacité attentionnelle et notre gestion de l'énergie. Parce que les journées sont souvent très longues, très multiples, et nos frontières deviennent très poreuses. C'est la première fois que on voit autant les environnements des gens, leurs enfants sur la vidéo, qu'on est autant transposé dans la vie intime des gens. Et là, elle est véritablement intime, a fortiori, parce que tout le cercle familial est en présence au même endroit, souvent dans des endroits qui mélangent les espaces. Donc ce mélange public-privé est complètement inédit, et pour notre cerveau, et parfois un peu compliqué aussi, parce qu'on a eu parfois l'habitude de segmenter complètement nos environnements et que là tout explose et d'un coup. Un des critères numéro un d'engagement pour les collaborateurs, c'est de pouvoir se projeter dans le futur. La capacité attentionnelle, je pense, sera l'une des clés du 21e siècle en termes d'efficacité personnelle et professionnelle. Quand on cherche à avoir plusieurs vies au sein d'une même journée, comme c'est souvent notre cas à tous, et moi, d'un point de vue personnel, c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser à ces sujets, c'est que j'ai toujours eu plusieurs vies au sein d'une même journée. Et du coup, il fallait bien trouver un moyen de gérer ces différentes vies, ces différentes activités. On va être obligé de travailler sur notre capacité attentionnelle. Il y a un chercheur qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud qui fait des choses très remarquables sur les neurosciences de l'attention. Il a créé aussi un programme qui s'appelle ATOL, qui est un programme d'éducation à l'attention à l'école, parce qu'il a constaté qu'on ne nous éduquait pas à l'attention. On nous éduquait à tout le reste, on nous reprochait souvent un manque d'attention dès tout petit à l'école, mais personne ne nous apprenait à faire attention. Or, notre cerveau, il aime ce mode automatique, mais le piège qu'il a aussi, c'est qu'il aime toutes les distractions. Donc, il aime ce qui va briller, ce qui va faire du bruit, ce qui va détourner notre attention du sujet qu'on traite. Et la chose qui est la plus dangereuse encore aujourd'hui, c'est que les devices qu'on utilise, dès qu'on utilise quelque chose d'informatique, que ce soit un smartphone ou un ordinateur, il y a des milliers et des milliers d'algorithmes derrière qui captent ce qui retient notre attention et qui nous alimentent avec ce que Jean-Philippe Lachaud appelle les bonbons attentionnels. Et ces bonbons attentionnels, du coup, c'est plein de petites capsules qui vont retenir notre attention parce que oui, effectivement, si je vais sur des sites de foot ou du Stade de France, l'algorithme va assez vite comprendre que peut-être le foot m'intéresse, donc va mettre des petites vidéos, des petits appels du pied qui vont facilement détourner mon attention quand je suis en train de faire une recherche très professionnelle sur Internet. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça fait le lien entre les capacités qu'on peut avoir dans notre cerveau à ramener notre attention au sujet principal et tout ce que notre environnement, dans la manière dont il évolue actuellement en lien avec l'intelligence artificielle, va avoir le pouvoir de faire. C'est-à-dire que la machine joue un peu contre nous avec ses bonbons attentionnels, justement. Et donc, il y a quelque chose, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Parmi ces choses qu'on peut mettre en place, c'est l'idée, si je prends quelque chose d'imagé, c'est d'éviter de mélanger les brocolis avec le chocolat. On fait toujours attention à ce qu'on met dans notre corps, c'est-à-dire on fait attention à ce qu'on mange. Et on peut se dire qu'on va maintenant, et je reprends encore une image de Jean-Philippe Lachaud, faire attention à ce qu'on met dans notre tête aussi, c'est-à-dire éviter de tout mélanger. Et pour éviter de tout mélanger, bien sûr, limiter les sollicitations. C'est-à-dire que par sollicitation, on entend pop-up d'emails qui arrivent et qui détournent notre attention. On a des micro-ruptures cognitives à chaque fois qu'on voit un pop-up arriver. C'est pareil pour WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn. On a sans arrêt des sollicitations qui viennent et qui nous alimentent. Donc, limiter ça quand on est en phase de concentration. Faire attention aussi à ce que j'appelle souvent les voleurs de temps. Il y a des bonnes pratiques qui consistent à ne pas prendre du temps aux autres et à s'en prendre un petit peu à soi. Je pense par exemple à l'email qu'on reçoit, qui ne nous concerne absolument pas, mais qui on fait partie d'une mailing list globale. Je pense par exemple à cette réunion à laquelle on est invité. On va devoir y participer 5 minutes. Donc on va devoir avoir un temps de présence attentionnelle de 5 minutes, mais on doit rester 2 heures dans la réunion. Tout ça, ça peut être facilement qualifié de voleur de temps et c'est intéressant de challenger ça, c'est-à-dire de pouvoir négocier ces temps-là, de rester décideur de ce qu'on met dans notre esprit. Et puis, il y a aussi la conscience de notre propre niveau d'inattention, c'est-à-dire savoir repérer les signes de notre distraction. Et ces signes, ils sont très propres à chacun. Pour certains, ça va être le son, la lumière, les objets connectés. Pour d'autres, ça va être regarder par la fenêtre, laisser son esprit vagabonder, ce qui est plutôt sain si c'est fait de manière volontaire et canalisée aussi. C'est-à-dire si on se donne ces temps-là de respiration de manière très régulière. Et par très régulière, on entend toutes les 45 minutes, ce serait bien de faire une petite pause, qui ne soit pas trop longue, mais qu'elle soit vraiment toutes les 45 minutes. Il y a une autre piste intéressante, c'est autour de la segmentation des tâches en sous-objectifs pour pas trop se disperser. Et puis, bien sûr, et ça c'est sine qua non, de connaître notre fragilité émotionnelle et notre fatigue. Parce que la fatigue mentale nous permet plus de prendre de la distance sur nos jugements et sur nos décisions. Et on sait qu'après une seule nuit blanche, par exemple, la mémorisation de toute une liste de mots est altérée. Et qu'on retient, et ça c'est quelque chose de très intéressant et de très utile quand on le sait, on retient les mots à connotation négative plus que les mots à connotation neutre ou positive quand on manque de sommeil. Donc ça laisse présager de tout ce qui peut se passer dans le rapport à l'autre. Ça se muscle dans le rapport à l'autre aussi, c'est-à-dire que quand on fait cet exercice de conscience par rapport à ce qui se passe, on s'aperçoit assez vite qu'on se prend en flagrant délit d'inattention. Flagrant délit d'inattention, c'est je mange avec mes enfants et je m'aperçois que je pense à ma réunion, que j'ai pas assez bien préparé pour le lendemain, ou bien je suis en rendez-vous avec un collaborateur et je suis en train de me dire que j'ai pas fait le chèque pour la salle de sport ou que j'ai pas réservé le train dont c'est l'ouverture demain. Donc ça, ce sont des flagrants délits d'inattention. Et je peux faire l'exercice de ramener ma pensée à ce qui se passe. C'est-à-dire, je peux me dire, je suis en flagrant délit d'inattention, j'y penserai plus tard, voire je le note pour y penser plus tard, et je reviens à ce qui est en train de se passer. Et il y a quelque chose d'intéressant, en début de séminaire, je demande toujours aux participants leur niveau de présence, ici et maintenant, à ce qui est en train de se passer. Certains vont me dire « je suis à 8 sur 10 », d'autres vont me dire « je suis à 3 sur 10 ». Et rien que cette conscience, elle va être intéressante pour eux parce qu'elle va leur permettre de se dire « là, j'ai dit que j'étais à 3 sur 10, attention, ramène ton esprit ». Et il y a un autre axe que je leur propose, c'est « si vous n'êtes pas là, présent, ici et maintenant, allez ailleurs ». C'est-à-dire, si vous vous apercevez que vous êtes à 3 sur 10 parce que vous n'avez pas envoyé un mail, allez l'envoyer. Ça ne sert à rien de n'être ni ici, ni là-bas. Et cet exercice de revenir à sa pensée principale et à son action du moment, c'est un exercice permanent qui peut avoir lieu 20 fois par jour. Et c'est comme ça qu'on muscle notre présence ici et maintenant. Oui, on a des aptitudes infinies par rapport à ce qu'on peut mettre en place et l'idée qu'on a voulu développer dans les talents cachés de votre cerveau au travail, c'était de ne pas culpabiliser Déjà, parce que c'est très difficile de changer un comportement. C'est très difficile parce que on a une histoire, on a une éducation, on a des habitudes, qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui s'appelle l'habituation aussi. Donc on est habitué à faire les choses d'une certaine manière et rompre ce circuit d'habitude n'est pas évident. La compréhension va être un premier chemin, l'envie va être aussi un chemin fort, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'envie qui va me permettre d'avoir le moteur, donc d'avoir l'adrénaline qui va me pousser à aller ailleurs. Mais ce n'est pas suffisant, même la compréhension, l'envie ne vont pas être suffisantes. Après, il va falloir se mettre dans une volonté de développement personnel et puis aussi dans quelque chose qui va se stabiliser, qui va ressembler à un ancrage de l'habitude avec une acceptation des allers-retours possibles, des phases de retour arrière, humaines, complètement, quasi biologiques, puisqu'on a dans les phases de transformation une phase de retour arrière où parfois on ne stabilise pas un comportement tout de suite. Et si on fait l'exercice de réfléchir chacun à un comportement qu'on a réussi à changer au cours de notre vie, on ne va pas en trouver énormément, on va en trouver quelques-uns, et souvent on va y penser dans le cadre d'efforts qui ont été longs pour changer ce comportement, qui ont été répétés et qui se soldent par quelque chose de l'ordre d'une récompense à la clé. Notre cerveau va se mettre en action s'il a une récompense, s'il a quelque chose à gagner à la clé. Notre cerveau va se mettre en action s'il a une récompense, s'il a quelque chose à gagner à la clé. Alors, je conseille d'aller voir plusieurs choses. Il y a une BD que j'aime beaucoup de l'illustratrice Emma qui s'appelle « Fallait demander ». Qui est publié dans le tome 2 de, d'un autre regard qui est sur la charge mentale. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, qui est un petit peu décalé, mais qui est intéressant en mise en perspective sociale, sociétale. Il y a aussi un autre livre que je recommande qui s'appelle « Préparer les petits à la maternelle » qui est coordonné par Boris Cyrulnik parce que ce sujet attentionnel, c'est un sujet qui commence très tôt, qui commence aussi dans les 1000 premiers jours de l'enfant, qui est le chantier que gère Boris Cyrulnik. Et il y a un lien très fort entre notre capacité attentionnelle adulte et la capacité qu'on a développée enfant. Et puis, sur ces sujets-là, en lien avec la neurobiologie de l'attention, les travaux de Jean-Philippe Lachaud sont intéressants, notamment « Les petites bulles de l'attention », qui est l'un de ses derniers ouvrages, que je trouve très, très pertinent. Sur les neurosciences, il y a énormément de choses qui sortent. Il y a des podcasts très intéressants également. Et l'idée, je pense, sur tous ces sujets-là, c'est de s'alimenter de manière curieuse et large, c'est-à-dire de rester ouvert à toute une série de choses et surtout de s'alimenter en permanence. Et c'est presque un devoir d'employabilité, c'est de se dire que chaque jour, on a 10-15 minutes consacrées à apprendre des choses, à s'alimenter sur quelque chose. Sur des choses aussi diverses et variées que comment pousse une lentille, ou comment on construit un immeuble, ou bien la Sagrada Familia. Peu importe, mais apprendre quelque chose pour mettre son cerveau en mouvement. C'est un petit peu le secret d'une longévité cérébrale. La crise actuelle nous permet de voir que on ne fonctionne pas en tant qu'individu, mais vraiment en tant que groupe. Moi, je suis anthropologue de formation, je suis chercheur à l'origine. J'ai toujours voulu faire le lien entre quelque chose de conceptuel et quelque chose de pratico-pratique, et l'anthropologie est vraiment une discipline qui le permet. Et Je vois dans la crise actuelle beaucoup de choses de l'ordre de la communauté qui sont en train de se jouer. Et pour résoudre les sujets qui sont les grands sujets qu'on vit, pas seulement de la crise du Covid, mais les sujets du 21e siècle, je crois qu'il y aura un vrai enjeu de groupe, de partenariat au sein des couples, mais aussi d'éducation familiale, mais aussi de rapport à l'entreprise et à son organisation, plus éthique, plus responsable, des rapports de confiance, des rapports d'élégance aussi qui vont être importants, et que on se sent en sérénité pour travailler efficacement quand on a ces différents appuis.
Merci à Emmanuel d'avoir accepté mon invitation, et si vous aimez ASAP, je vous invite à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.